Blanchard vous a concocté une émission aux petits oignons, mijotée avec amour par papa et maman. Plus fort qu'en scène, en short vous rejoue les mains sales de tonton Jean-Paul avec un opus consacré aux magouilles en tout genre, peuplant le monde idéal et tout mignon du football mondial. Au sommaire, la défaite stupide du Paris Saint-Germain sur tapis vert en 1997, les tribulations de la fausse équipe nationale du Togo, une petite histoire belge à l'ancienne, et pour finir en beauté, un top 5 des magouilles les plus sales du milieu.
Mais avant ça, micro-trottoir. L'équipe d'En Short est partie à la rencontre de la populace, micro ouvert et gueule d'ange. Avec une seule question sur les lèvres, qu'est-ce que ça vous évoque perdre sur tapis vert ? Florilège.
Au casino, c'est perdre de l'argent.
Qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque le fait que l'agriculture est en train de foutre le camp. Voilà, ça m'évoque le fait qu'il faudrait qu'on fasse attention à garder la nature un peu verte. Ça m'évoque le fait que le tapis, c'est un tapis de jeu et que c'est aussi le tapis de la bourse et que voilà.
Ça veut dire perdre un jeu d'argent, un jeu de cartes.
Parce que les Lyonnais ont perdu en face des Verts.
Perdre sur tapis vert, ça m'évoque perdre beaucoup de choses qui nous appartenaient. ça m'évoque perdre ses moyens, plutôt ouais.
Je te dirais payer rubis sur l'ongle.
C'est, je sais pas, au casino, on perd beaucoup d'argent sur un tapis vert. C'est pas perdre en poker. Hein.
Ça, c'est pas jouer du poker, c'est exactement ce que j'allais dire.
Ah, rien du tout.
C'est que l'équipe n'est pas venue jouer.
D'accord.
Pour moi, c'est ça.
En principe, moi, je pense que c'est ça. Que sur le tapis vert, c'est que l'équipe adverse, bon, ben, il s'est laissé faire, je sais pas, moi. Ouais.
Bonne question.
Ouais. Ne pas respecter les règles du sport.
C'est perdre un match après le match sur discussion par comment dire difficile à expliquer. Perdre un match sur tapis vert, c'est qu'il s'est passé quelque chose en dehors du match ou pendant le match qui fait que l'équipe en question va faire le match. J'arrive pas à
dominer le match et par la suite perdre ce même match. Je pense que c'est ça.
Alors perdre au poker.
J'en ai aucune idée.
Mon père au poker, j'ai fait un all-in et j'ai perdu.
Pas de petits légumes bio ni de fortune perdue sur tes tapis de velours, mais seulement de la bêtise et des magouilles. Un revers sur tapis vert est une sanction administrative, une défaite imposée a posteriori par les instances dirigeantes pour non-respect des règles écrites du sport en général. Exemple, en 1997, le club de foot de la capitale, le Paris Saint-Germain, se qualifie, une fois n'est pas coutume, pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions. Seulement, avant de mettre les mains au panier, le PSG doit disputer un match de barrage aller-retour contre le champion de Roumanie, le Steaua Bucarest. Dans une ambiance de fin du monde, le PSG s'incline à Bucarest lors du match aller par 3-2. Malgré la défaite, rien n'est joué. Le lendemain, le club se lève pourtant avec une énorme gueule de bois. Dans la nuit, l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, se rend compte que les Parisiens ont commis la bourde de faire jouer Laurent Fournier, pourtant suspendu pour la rencontre. Résultat ? Le Paris Saint-Germain perd la rencontre sur tapis vert et l'UEFA décide de changer le score de 3-2 pour les Roumains en un 3-0 lapidaire. Le PSG y gagne le titre de club le plus bête du monde. Payé des 1000 et des 100, personne ne s'est rappelé parmi les dirigeants du club que Laurent Fournier était suspendu, le club le plus bête du monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les Parisiens se la jouent romantique à la Hugo et tout le bordel. Après le grotesque, place au sublime. Au match retour, dans un parc des princes en ébullition, les Rai, Simone, Leonardo et Maurice explosent les Roumains façon pulse. Les Rotariou, Bachu et Otmilitaru repartent chez eux sans l'aide d'Hortefeu, mais avec 5 points dans la musette. Vainqueurs 5-3 sur l'ensemble des deux matchs, les Parisiens accèdent à la phase finale de la Coupe aux grandes oreilles. Après les ânes du PSG, bienvenue au pays des hyperviers du Togo, état lilliputien d'Afrique de l'Ouest. 9 mois après la fusillade de Cabinda, où le bus de la sélection nationale de football togolaise en route pour la Coupe d'Afrique des Nations en Angola s'était fait mitrailler par les rebelles indépendantistes du CRU, coûtant la vie à 2 membres de l'encadrement, les hyperviers font de nouveau les gros titres. mais cette fois-ci, moins de larmes, plus de magouilles, avec en trame de fond un match truqué et des dirigeants qui s'en mettent plein les fouilles. Le 16 septembre dernier, la sélection nationale du Togo rencontre, lors d'un match amical, celle du Bahreïn, là-bas, au stade national Manama. Malgré l'énorme différence de niveau qui existe entre les deux sélections, la petite équipe du Bahreïn étrille 3-0, l'une des meilleures sélections africaines de ces dernières années. Le lendemain, la Fédération internationale de football salue même la victoire impressionnante des joueurs de Joseph Hickersberger, sélectionneur allemand du Bahreïn. Habitué à prendre régulièrement des fessées contre les autres nations du football, les responsables de la fédération bahreïnienne soupçonnent une arnaque et découvrent bientôt que leur adversaire n'était pas celui attendu. Incapable d'aligner 3 passes de suite, à bout de souffle au bout de 30 minutes de jeu, la sélection togolaise a fait piètre figure. Surtout lorsque l'on apprend que la veille, l'équipe revenait d'un match de qualification contre le Botswana et qu'elle se trouvait à l'heure du match contre le Bahreïn à Lomé, la capitale du Togo. Mais alors, qui étaient les 11 joueurs qui ont disputé le match amical face au Bahreïn? C'est là que l'histoire devient hilarante, puisque la fausse équipe togolaise était composée en réalité de 11 Nigérians, footballeurs du dimanche. À la fédération togolaise, devant l'énormité du scandale, on fait les surpris, Mini Faré et Brabant Allange au Raptor Studio. Le match devait être annulé, mais un dirigeant a pris lui-même l'initiative de présenter une fausse équipe togolaise. Pourquoi?
Moi je gagne ma vie suffisamment, du pognon j'en ai, t'inquiète pas pour moi. Ce côté-là, tout va très bien. C'est peut-être ton problème. Là j'ai mis le doigt dessus. Hein? Toi t'es là pour les pépettes. C'est peut-être pour ça que t'es stressé. Hein?
Effectivement, pour les pépettes. En répondant à l'invitation de la fédération du Bahreïn, le dirigeant incriminé a ramassé au passage une prime de 200 000 dollars, de quoi s'amuser un peu dans le dancing de Lomé et d'ailleurs. Faut dire que la fédération togolaise, c'est le foutoir. En décembre dernier, le président de la fédération, le colonel Roch Balamkiyem Niasimbe, a été écarté. Le demi-frère de l'actuel dictateur du Togo, Faure Niasimbe, faisait un peu trop d'ombre à ce dernier. Mais qu'on ne s'inquiète pas, puisqu'un militaire en remplace un autre. C'est le général Seyi Memene qui est désormais président de la fédération. Seulement, comme le souligne Honoré Adontoui, journaliste sur une chaîne togolaise, en l'absence du général Memene, chacun prend des initiatives personnelles. Clémenceau avait dit que la guerre était une chose trop sérieuse pour qu'on laisse les militaires s'en occuper. On est tenté de dire la même chose au sujet du football. Dans cette république bananière où les képis sont rois, le football fait l'objet d'une récupération politique douteuse et de détournement de fonds dignes des plus grandes heures de la droite française.
Mais le rouge est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit porte-vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Ça me désole.
Changement de décor.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues.
Bienvenue au pays de Brel, de la moule, des cheveux gras et des lunettes à verre fumé. Parce que les histoires belges sont les meilleures, on les garde pour la fin et on vous prouve que chez Claudie Faucan aussi, on aime tripatouiller les pépettes. Le Royal Sporting Club d'Anderlecht, 25 fois champion de Belgique, 3 Coupes de Belgique et 3 Coupes d'Europe à son actif, est l'un des derniers mythes unitaires du pays, est éclaboussé par un scandale de corruption qui éclate en 1997. Cette pantalonnade que nous offre le Royaume met en scène Constant van den Stock, ancien président du club et célèbre brasseur bruxellois, et son grand rejeton de 50 ans, Roger. Gueule de pilier de comptoir des bouges les plus tristes de Bruxelles, le genre qui s'est sali les mains à la grande époque du Congo belge, les deux larrons sont dénoncés par René Van Eken. Ce patron de discothèque d'Anvers affirme détenir la preuve que la bienveillance arbitrale en Coupe d'Europe lors du match Anderlecht-Nottingham Forest le 25 avril 1984 a été achetée. L'UEFA a d'ailleurs, à la fin du mois de septembre et plus de 10 ans après les faits, sanctionné mollement le club bruxellois au titre de la morale sportive. Ce bon vieux Constant Van den Stock aurait offert une petite mallette pleine de billets à l'arbitre espagnol de la rencontre, avec une victoire des Belges 3-0 à la clé, après une défaite 2-0 à l'aller. Par humanité, selon son fils Roger, l'arbitre étant alors sans le sou. Heureusement pour Constant, l'arbitre ne viendra jamais raconter l'histoire puisqu'il meurt dans un accident de auto 2 ans plus tard. Bah tiens. Tout ce micmac est révélé par René Van Eken, petit magouilleur de son état, propriétaire du Midnight Express, une boîte en vogue d'Anvers. Ce brave gars se voit confier en 89 une petite mallette par son copain Jean Elst, proprio d'un bar à hôtesse sur les docks, qui allait se faire boucler par le fisc. Entre humanistes, on sait se serrer les coudes. L'ami René découvre vite que la mallette contient des bandes magnétiques qui révèlent la corruption d'arbitre que mène depuis 10 ans le père Constant à Anderlecht. Pas fou, René fait une copie des bandes. Bien lui en a pris parce que quelques temps plus tard, il se fait flouer par Jean Els dans une affaire immobilière. Le Kaiser Palace, un sauna que les deux compères voulaient monter ensemble. Plumé de 18 millions de francs belges, René décide de se venger et balance les bandes à la Fédé belge de foot. Sauf que Constant Van Den Stock est aussi en poste à la Fédé et noyote vite l'affaire, ressort blanc comme neige. Mais pour se débarrasser définitivement de ces bandes gênantes pour son intégrité et de leur emmerdeur de possesseur, il fait venir René au siège du club, lui parle comme à un fils selon ce dernier et lui promet 12 millions de francs belges en échange de la destruction des bandes. Mais René est, comment dire, un peu tête brûlée, un peu dickeneck et surtout assez con. Il enregistre la conversation puis se barre en Thaïlande ouvrir un hôtel aux mœurs douteuses avec les sous de Constant. Puis, peu après, il revient au pays et décide de tout rebalancer à la presse et de refaire chanter Constant. Alors là, Papy Constant la joue moins cool, et dans la même nuit, la boîte de René, le Midnight Express, brûle, sa Jaguar est ruinée, et un coup de fil anonyme le prévient « Ne salis plus la mémoire d'un derlect on tue !» Finalement, René retournera voir Constant une dernière fois, touchera encore un peu de blé, mais se la bouclera, tandis que depuis, l'affaire a bel et bien éclaté, mais Constant s'en fout, il y a 10 ans et donc prescription pour l'UEFA. Le vieux coule des jours paisibles entre une duvelle et une fille de joie. Son fils Roger a repris le club et joue au golf. Et René Van Ecken a foutu le camp, car à 59 ans, comme il le dit lui-même, il ne tient pas à finir pendu à un lampadaire. Tout est bien qui finit bien au pays des moules frites. Et voilà, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais on se quitte avec un petit top 5 des magouilles les plus saignantes du football. En 5, c'est italien et ça porte un nom rigolo. C'est Toto Nero. Non, ce n'est pas le nom d'un obscur parrain sarde, mais celle d'un petit scandale de paris truqués avec un casting à l'ancienne. Des parieurs romains, de l'argent de la Camorra, un gardien qui force un peu trop sur le PMU, Ricky Albertossi du Milan AC, un président véreux, Colombo, lui aussi du Milan AC. Le poteau rose est découvert en 80. Le Milan descend illico en série B pour la première fois de son histoire en 81-82. 8 ans après, il gagnait 2 fois de suite la C1 en apprenant le football à toute l'Europe. Comme quoi. En 4, c'est français, ça a traumatisé des générations de vertueux. OMVA, bien sûr. A l'origine, pourtant, rien de bien méchant, plutôt même une bonne intention. Un petit coup de fil des délits, joueur de l'OM, qui propose à ses amis de Valenciennes, Glassman, Buruchaga et Robert, un petit pactole issu des poches de Tonton Tapi, pour qu'aucun joueur de l'OM ne soit blessé lors de VAOM, une semaine avant la finale de la Coupe d'Europe contre le Milan, le 29 mai 93. Marseille gagne 1-0 à Ningesserre. Mais les types flippent, balancent et l'OM en prend pour son grade. Retrait du titre de champion, exclusion de la Coupe d'Europe, rétrogradation en D2 et tollé général. Fin de l'ère Tapi, début de la galère pour Marseille, mais une coupe aux grandes oreilles dans la vitrine. On sait maintenant pourquoi l'OL ne gagnera jamais la Ligue des Champions. En 3, c'est pas une affaire, c'est plutôt une véritable culture, c'est le foot en Chine. 90% de matchs achetés, des joueurs pas payés, des 5-4 à 7 pénaltys tous les samedis, une ligue réduite à 14 parce que les Chengdu Blades ont été rétrogradés pour magouille, un mafieux de Shanghai, Ye Zeyun, qui achète des matchs jusqu'en Belgique. C'est con parce qu'avec potentiellement 600 millions de footballeurs, il y aurait de belles choses à faire. Heureusement, il leur reste Jackie Chan et Shaolin Soccer. En 2, c'est tout neuf et ça se passe de l'autre côté du rideau de fer. C'est le plus gros scandale de l'histoire du foot, Dixit Blatter. Révélé en 2008 par un canard allemand, un vaste réseau de matchs truqués via des paris frauduleux manipulés par des mafieux allemands d'origine albanaise, impliquant plus de 200 clubs dans 17 pays, Hongrie, Slovénie, Turquie et Allemagne en vedette. En même temps, un Debrecen Fenerbahçe sans mallette noire qui circule sous les tables, ça serait louche. Costa Rica en ferait bien son prochain film, à domicile. En 1, à tout seigneur tout honneur, c'est italien et c'est bien fait, le Calciopoli révélé par les presses transalpines en 2006. On apprend qu'entre 1999 et 2005, Luciano Moggi, alors directeur sportif de la Juve, choisissait les arbitres et leur faisait des petits cadeaux pour que son cher club gagne ses matchs, étrangement souvent sur un péno litigieux à la 89e. Aux surprises, le Milan de Berlusconi, la Lazio et la Roma sont mouillés aussi. Tout ce petit monde prend des points de pénalité, la Juve file voir à l'étage inférieur. Le plus moche dans l'affaire, c'est que depuis l'Inter a été 5 fois de suite champion et que ça semble pas prêt de s'arrêter. Voilà, c'était tout pour cette émission. Ne manquez pas la prochaine avec une spéciale ultra et spéciale hooligan pour les amateurs de crâne rasé et de canettes de bière. A plus !